Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h30 sur Transistor, voici le journal radiophonique amplifié de ce jeudi 16 février. Ce soir encore, notre équipe traque l'actualité dans sa profusion et sa diversité et part à l'écoute des bruits du monde qu'elle vous retransmet, mixé, égalisé, monté et bien sûr, amplifié. Comme d'habitude, ces bruits seront politiques, évidemment, et j'imagine que nous recevrons les dernières nouvelles de Sarthe et d'Amérique, mais aussi culturels ou scientifiques dans la deuxième partie de l'émission, où vous entendrez, entre autres échos, des nouvelles de l'actu culturelle lyonnaise, de l'usage des fusils à pompe, de FIP et de Lambert Wilson, rien que ça. Mais pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres qui vous est présenté cette semaine, et comme d'habitude, par Mathias. Bonsoir à toi, Mathias.
Bonsoir, Rémi. Affaire Fillon, le parquet national financier a aujourd'hui annoncé dans un communiqué qu'en l'état, un classement sans suite de la procédure n'était pas envisageable. Les investigations concernant les soupçons d'emploi fictifs se poursuivent donc. François Fillon a par ailleurs déclaré qu'il s'agissait d'un acte de communication, je cite, visant à nourrir le feuilleton médiatique. Le candidat Les Républicains, qui a déjeuné hier avec l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, opère un virage à droite de sa campagne en proposant une mesure très inspirée de la philosophie pénale de l'ancien chef de l'État, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Mais François Fillon n'en finit pas de dégringoler dans les sondages. Un dernier sondage Ipsos Soprasteria pour le Cevipof et Le Monde donne François Fillon 3e avec 18,5 ou 17,5% des suffrages selon l'absence ou la présence de François Bayrou au premier tour. Il arriverait donc derrière Marine Le Pen qui récolterait de 25 à 26% et Emmanuel Macron entre 20 et 23%. Suivent ensuite Benoît Hamon autour de 14%, Jean-Luc Mélenchon entre 11 et 12% et François Bayrou qui, s'il se présentait, récolterait 6% des voix. Une autre information de ce sondage concernant cette fois la sûreté du choix de vote. Les électeurs de Marine Le Pen sont sûrs de leur choix à 75% et c'est aussi le cas pour plus de 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et plus de 60% des électeurs de François Fillon. A l'inverse, seulement 40% des électeurs de Benoît Hamon et environ 35% des électeurs d'Emmanuel Macron se déclarent sûrs de leur choix pour le premier tour. Emmanuel Macron, toujours lui, qui déclenche la polémique à droite comme à gauche. À droite pour ses propos sur la colonisation, qu'il a déclaré être, je cite, un crime contre l'humanité, ce qui a suscité l'ire de la droite et de l'extrême droite contre ce discours de repentance permanente, selon les mots de François Fillon, que François Fillon juge indigne d'un candidat à la présidence. Lors d'une interview donnée à l'Obs, Emmanuel Macron a aussi déclaré la nécessité de discuter avec des personnes de gauche comme de droite, incluant le très droitier Philippe de Villiers. Le candidat d'En Marche est revenu sur le débat de 2013 sur le mariage pour tous, considérant que les opposants, comme la Manif pour tous, ont été, je cite, « humiliés » par ce débat. Présidentielle toujours, Hamon veut faire de la transparence de la vie politique un axe de sa campagne présidentielle. Le candidat a présenté aujourd'hui 10 propositions. Publicité du nom des donateurs pour les dons supérieurs à 2 500 €, déclaration du patrimoine des députés sur Internet, obligation d'un casier judiciaire vierge pour les candidats à tous les scrutins, interdiction pour les parlementaires de recruter un membre de leur famille, interdiction du cumul de la fonction de parlementaire et les activités dites de conseil, renforcement des contrôles concernant les indemnités des députés, etc. Une campagne tricéphale à gauche. Hier, en meeting à Strasbourg, Jean-Luc Mélenchon a affirmé qu'une union de la gauche pour la présidentielle était possible, seulement derrière sa candidature. François Hollande, en déplacement à Rennes aujourd'hui, a fait cette déclaration qui ne dupe personne. L'exemplarité, ça vaut pour tout, et si au sommet de l'État, il n'y a pas cette exemplarité, comment donner confiance, comment appeler à l'effort, comment donner des perspectives à notre pays? C'est la première fois que le chef de l'État commente l'affaire Fillon. Le délit d'entrave numérique à l'interruption volontaire de grossesse, définitivement adopté par l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les militants anti-IVG 2.0, selon les mots de la rapporteuse Catherine Coutel, risquent désormais jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Le vote s'est fait à main levée. Tout le groupe Parti Socialiste et la majorité du groupe UDI a voté pour. Les Républicains, quant à eux, ont voté contre. Bonne nouvelle, le taux de chômage en France a baissé en 2016 pour la deuxième année consécutive. Le chômage s'établit à 9,7% en métropole au quatrième semestre, soit une baisse de 0,1% par rapport au trimestre précédent. La croissance, quant à elle, est en hausse avec 1,2%, ce qui reste cependant insuffisant pour avoir un impact sur le chômage. Si ces chiffres peuvent paraître anecdotiques, ils sont importants pour dresser le bilan du quinquennat de François Hollande. À ce propos, le site du Monde vous propose de dresser vous-même les courbes économiques françaises des 4 dernières années, histoire de comparer ce qu'on croit connaître de la situation économique du pays aux statistiques chiffrées. International maintenant. Donald Trump a nommé Alexander Acosta comme le nouveau secrétaire au travail de son administration après le retrait de la candidature d'Andrew Posner, plombé par des révélations concernant sa vie privée. C'est une semaine noire pour le président américain qui n'a toujours pas d'administration complète, notamment après la démission de son conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, dont il a été révélé qu'il a été en contact à de multiples reprises avec les autorités russes pendant la campagne présidentielle et la période de transition. Le président américain a d'ailleurs promis, lors d'une conférence de presse aujourd'hui, qu'il mettrait en place un nouveau décret sur l'immigration dès la semaine prochaine, après l'échec du fameux Muslim Ban. Au niveau international, l'administration Trump bafouille quant à la question israélo-palestinienne. Alors que le président des États-Unis avait déclaré hier vouloir renoncer à la solution à deux États, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a quant à elle déclaré que Washington soutenait, je cite, « absolument » la dite solution à deux États. Et c'est tout pour le journal. À toi Rémi.
Merci beaucoup Mathias pour ce journal. Plein de belles infos venues outre-Atlantique, voilà, je ne m'étais pas complètement trompé et j'imagine que ça va encore durer un petit peu, mais ça, c'est notre boulot de faire ce feuilleton aussi.
Disons que moi, c'est bien parce que j'ai toujours du travail, j'ai toujours une information qui vient sur Trump.
Finalement, en cas de pas de problème de feuille blanche.
Ah non, aucun.
Aucun. Et alors je crois, Marie, que justement... tu n'as pas envie de trop parler de Trump, toi, aujourd'hui.
Bah, c'est pas forcément moi qui n'en ai pas envie, c'est la presse ce matin qui n'en avait pas spécialement envie. Et écoute, ça change un peu.
Ouf.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Eh bien, on la commence avec Marianne, Marie.
Oui, j'ai insisté, Rémi, avec le numéro qui sortira demain en plus. Que voulez-vous ? À l'amplifier, on a toujours une longueur d'avance.
Qui dis-tu ?
Et puis bon, c'est rigolo de parler de Marianne de temps en temps. Vous savez, cet hebdomadaire là, avec les couvertures moches et les titres qui ont l'air d'avoir été écrits par un ado de 14 ans. Genre, juge et politique, pourquoi ils se détestent ? Vous avez ça en une dans les kiosques demain. Ou encore, citant Juppé, je ne saurais pas le plan B de Fillon. Un Juppé dégoûté ? Qu'on l'ait cru ? Ouais, trop deg le mec. Bon, nous on écrit comme des kikoulols, tu vois.
Du coup, pas grand-chose d'intéressant à apprendre, j'imagine.
Bon, si, quand même un peu. Je troll. Mais pour une fois, Marianne sert à quelque chose. Une fois n'est pas coutume. L'hebdomadaire et Mediapart publient aujourd'hui un rapport confidentiel déposé auprès de la justice par l'Office européen de la lutte antifraude. Vous savez, le fameux OLAF. Ces documents, sur quoi portent-ils ? Sur Marine Le Pen et ses drôles d'assistants parlementaires pour la période 2009-2017. Alors, on va passer au dossier de Mediapart, si vous voulez bien, parce que c'est quand même plus intéressant. À votre avis, qui a bien pu être promu assistant parlementaire par Marine Le Pen autour de la table ? Un indice, peut-être ?
Son mari.
Un indice de la part de Nicolas. And I will always love you.
Dans le script, alors
on pourrait presque chanter en même temps.
Mais Mathias, c'est à fond. Mathias, c'est à fond.
Allez, Mathias,
je vois que t'es à fond. Tu as peut-être la réponse.
C'est Bodyguard.
Exactement, c'est son Kevin Costner, son Thierry Légier. Bon, c'est moins classe que Kevin Costner. Dans le dossier de Mediapart, on détaille un peu l'individu. Un gaillard d'1m90, ancien parachutiste, connu de tous les frontistes comme le garde du corps des Le Pen depuis 1992. Garde du corps du père d'abord et de la fille depuis 2011. Un garde du corps payé comme assistant européen local avec les fonds de l'UE, sur la base d'un faux contrat de travail, c'est du joli. et pas mal payé en plus, plus de 7000 euros par mois pour un 3 quarts temps, plutôt confortable. À Mediapart, on se moque, Thierry Léger n'a pas souhaité répondre aux questions de Mediapart et Le Pen non plus. Quant à l'avocat de Le Pen, il a une justification en béton armé. C'est le problème de la sécurité. Est-ce qu'il est exorbitant du droit commun que le Parlement assure la sécurité de Marine Le Pen ? Je vous le demande, messieurs, dames. Eh ben oui, c'est exorbitant, connard. C'est même assez choquant, je trouve.
Eh bien, enfin, heureusement, il y en a un qui est là pour punir les méchants, et c'est François Fillon.
Oui, dans les pages du Figaro et en une du quotidien ce matin, un candidat Les Républicains qui veut lutter contre les petits caïds en abaissant la majorité pénale à 16 ans. Mathias vous en parlait tout à l'heure. Et Vlati, que je te sors le dossier sécuritaire à grands coups de statistiques. Ouais, dans les émeutes, tu aurais 60% de mineurs, et puis la casse, elle est en augmentation. Et Vlati, que je te cite Pécresse, pour laquelle il y a, je cite, un déni de réalité sur l'âge des auteurs des violences, etc., etc., etc.
Et curieusement, il y a d'autres violences dont le Figaro ne parle pas trop.
Eh oui, curieusement, Rémi, moi je ne saurais que trop vous recommander l'enquête de Mediapart parue ce matin. Le titre « Doigts dans les fesses, palpation des testicules, la banalité méconnue des contrôles d'identité ». Il faut vraiment lire ça, c'est salutaire, ça donne la parole à des éducateurs, des avocats, des victimes, des chercheurs. Moi je ne suis pas une minorité ethnique visible, vous voyez, et je ne risque pas de me prendre un contrôle de police au faciès. Lisez ça si c'est votre cas aussi. Alors oui, dernièrement on a beaucoup parlé de l'affaire Théo, on en a beaucoup plus parlé que si cela avait concerné un Mohamed ou un Amadou très certainement. Le viol de Théo c'est un cas rare, mais c'est surtout l'aboutissement d'un continuum de violences si courantes, les insultes homophobes, les palpations au niveau de l'arrêt des fesses, des testicules, etc. Une cérémonie de dégradation, comme dit le sociologue américain Garfinkel. Avec comme but d'humilier et de démasculiniser les jeunes racisés, notamment dans des quartiers où l'homosexualité est assez mal considérée. Et surtout dans cette enquête, on apprend que les policiers sont formés comme ça. Lors des simulations de contrôle d'identité, ils sont déjà invités à lancer des remarques homophobes. Donc non, je n'en démordrai pas. Nous avons un problème avec le genre, nous avons un problème avec les minorités, et nous avons un très grave problème avec notre idée de la police et de la sécurité.
C'est peut-être ce qu'on voudrait répondre à Fillon, finalement, et ses petites misères.
Oui, voilà, ses petites misères. À côté, le pseudo « lynchage médiatique » dont se plaint le candidat, ça me fait doucement rigoler. Adèle Van Rett le tacle dans le numéro du 1 cette semaine. Fillon qui dit que tout le monde lui est tombé dessus, que personne n'a pris sa défense et que c'est pas ça la démocratie, ça, pauvre petit Calimero. Bon, pour la philosophe, c'est clair, je cite, « il déplace le problème de sa responsabilité vers le constat d'une démocratie gangrenée ». Sauf qu'on est désolé François, mais le tribunal de l'opinion, même quand il réprouve, c'est une marque du bon fonctionnement de la démocratie. Une marque mise en évidence par Tocqueville, il y a deux siècles, un certain Alexis de Tocqueville. Tout ça, c'est à retrouver dans le 1 cette semaine, un numéro consacré à la grande lessive présidentielle. Faites vos jeux, rien ne va plus, les favoris sont écartés, les vieux briscards sont sur la touche, l'élection est absolument imprévisible. Tout ça, c'est à suivre dans la presse, bien sûr, et avec nous sur Transistor dans les mois qui viennent.
Et parfait, même le petit teasing pour finir la chronique. Bien, merci beaucoup, Marie, pour cette revue de presse. Alors, dépourvu de Trump, mais chargé en énervement, hein, c'est...
N'est-ce pas ?
Mais il faut ce qu'il faut.
Voilà.
Bien, et nous passons à Romain, nous lui parlons.
Nous parlons aussi, hein, oui,
et vous lui parlez sans doute, chers auditeurs, mais il ne vous entend pas. Toujours est-il que Romain, tu t'apprêtes à parler et à nous faire ton billet éco. Bonsoir Romain.
Oui, merci, bonsoir Rémi. Alors j'avais envie de vous parler encore un peu d'économie numérique avec ce chiffre. 15 millions de dollars, c'est le montant qu'a gagné PewDiePie, le premier youtubeur mondial en 2016. Alors où vous en êtes-vous ? Vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube ?
Oui, mais alors ce YouTuber-là, personnellement...
Je préfère le clip de campagne de Marine Le Pen.
Ah, magnifique.
C'est toi toutes les vues, putain, mais Rémi, tu fais chier, franchement.
Bon, au-delà de Marine Le Pen, donc quelqu'un connaît PewDiePie ici ?
Non.
Donc c'est le premier YouTuber mondial, suédois, de son vrai nom Félix Kjellberg, et qui totalisait il y a une heure 53 247 803 abonnés. Donc, vous le connaissez pas, vous devinez pas pourquoi j'ai envie de parler de lui aujourd'hui.
Bah non, c'est même pas du tout de quoi il parle, donc...
Non, à la base, il fait du... gaming comment, enfin il joue aux jeux vidéo qui et fait des commentaires, bref. Depuis quelques jours, il est au-delà de ça l'objet d'une controverse, puisque vendredi dernier, le Wall Street Journal a incriminé 9 de ses vidéos en disant qu'elles contenaient des propos antisémites. C'est une controverse assez complexe et je ne vais pas tenter d'y répondre, ni même de donner mon avis. Je me contente de constater cette controverse, et c'est les implications de l'état dans lequel est PewDiePie qui m'intéressent.
Tu veux dire que ce PewDiePie perdra des abonnés ou de la crédibilité dans cette affaire ?
Oui, et on peut traduire ça en termes économiques. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est que les entreprises peuvent faire moins confiance à l'image de PewDiePie et donc soient plus réticentes à investir dans ce YouTuber. Je m'explique. Depuis mardi, PewDiePie a été lâché de toutes parts par les acteurs institutionnels qui l'entourent. D'abord, c'est YouTube lui-même qui a annoncé qu'il annulait son projet de série Scare PewDiePie qui devait être sur YouTube Red l'année prochaine.
Attends, YouTube Red ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. C'est un tout nouveau service que YouTube expérimente aux États-Unis et qui, en échange d'un abonnement de 10€ par mois, vous autorise à regarder des vidéos sans publicité et surtout vous donne accès à du contenu spécial comme feu cette saison de Scare PewDiePie. Un autre malheur pour PewDiePie, il a été lâché par son studio, qui n'est autre que Disney. En effet, comme beaucoup d'autres YouTubeurs, PewDiePie a un contrat avec un studio, donc nommément Maker Studio, qui appartient à Disney, et ce studio est en charge de s'occuper de sa communication, ses problèmes législatifs, etc. Son contrat a été annulé face à cette controverse. Bon, c'est pas fini pour PewDiePie, parce que comme vous le savez peut-être, il peut continuer à se faire de l'argent même sans studio, à partir des pubs qui arrivent aléatoirement et automatiquement au début de ses vidéos. Mais YouTube a tout de même démonétisé, c'est-à-dire enlevé les publicités sur 3 vidéos jugées inappropriées. Et ces vidéos, de manière intéressante, n'ont pas été supprimées de la plateforme pour les usagers.
D'accord, il y a donc un traitement différent pour les vidéos avec pub et les vidéos sans pub, du coup.
Effectivement. Et je trouve que ce point nous renseigne pas mal sur les complexités de l'économie de YouTube. En fait, YouTube peut être analysé en termes économiques comme un marché dit biface. Un marché, normalement, ça met en lien des producteurs, disons le Figaro, et des consommateurs, par exemple notre chronique express, Marie, peut-être.
Je te remercie pour cet hommage, Robert.
Exactement. Et donc voilà, le producteur et le consommateur échangent un produit contre de l'argent. Un marché biface, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a 2 types de consommateurs, ou plus précisément 2 types de clientèle, qui font un usage différent du produit. L'exemple canonique, c'est les journaux gratuits de type 20 minutes ou métro. Il y a 2 clientèles, les lecteurs d'une part, dont le but est donc de lire le journal, et de l'autre part, les entreprises qui mettent des publicités dans le journal et payent pour avoir une vision dans ce journal. Et c'est grâce à ce genre de marché biface donc qu'on peut avoir des produits gratuits comme ces journaux, puisque un type de clientèle, les entreprises, payent pour l'autre, les lecteurs.
Oui, alors 20 minutes, c'est gratuit, mais on n'est quand même pas super sûr de ce qu'on lit, justement parce que c'est financé par des entreprises privées.
Oui, c'est le mauvais côté des choses pour nous. Et pour les entreprises donc du type 20 minutes ou YouTube, on observe que c'est souvent assez compliqué parce qu'elles sont tiraillées entre 2 intérêts à satisfaire, ceux des 2 clientèles, des lecteurs et des gens qui demandent les publicités. Pour 20 minutes, par exemple, ils hésitent entre faire du contenu qui plaise aux lecteurs, pour que le journal ait du succès, et faire du contenu qui plaise aux entreprises, qui les subventionnent.
Et puis YouTube, du coup, c'est pareil, c'est pour ça qu'ils différencient entre les vidéos non monétisées à destination des usagers seulement, et les vidéos avec pub qui prennent en compte les intérêts des entreprises qui mettent des pubs, c'est ça ?
Effectivement, en effet. À la différence seulement que YouTube n'a que peu de contrôle sur le contenu des vidéos, puisqu'effectivement, il est fait par les YouTubeurs. Il y a quelques années, quand YouTube a décidé de mettre le paquet sur les publicités, son projet était d'être une alternative forte à la réclame sur une télévision qui décroît en audience. Mais quand ça touche à la pub, les entreprises sont assez vigilantes quant à leur image. Les télévisions permettaient aux entreprises d'être sur du contenu avec lequel leur pub est... La télévision permettait aux entreprises d'être sûres, certaines, du contenu avec lequel leur pub était associée. YouTube, avec ses algorithmes de profiling, propose de cibler le public des publicités avec plus de justesse et donc de toucher les bonnes personnes. C'est un gros plus. Mais le problème, c'est que les entreprises n'ont plus de regard sur le contenu avec lequel elles vont être associées. Et ça leur fait assez peur. Il me semble que l'exemple de PewDiePie le montre bien. D'ailleurs, plusieurs entreprises, comme Nissan, ont déjà annoncé qu'elles blacklistaient PewDiePie, c'est-à-dire qu'elles demandaient à YouTube de ne pas apparaître avant ses vidéos. Voilà, ce qui m'intéressait dans cette actualité, c'est le point auquel l'image, la confiance en l'image, continuait de jouer un rôle important dans les stratégies marketing. Et on peut interpréter le problème auquel fait face YouTube de deux manières. Soit son modèle marketing et économique ne fonctionne pas, soit on peut penser que les entreprises qui choisissent de mettre des publicités sont un peu à la traîne et ne comprennent pas bien la nouvelle économie numérique. Personnellement, je pense pas avoir une plus mauvaise image de Nissan si elle apparaît avant une pub de PewDiePie. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oh, personnellement, ça m'influence pas spécialement non plus.
J'utilise un bloqueur de pub.
C'est ça.
Très bien. Bon bah merci.
Mais merci à toi surtout, Romain, pour cet édito économique qui nous offre un éclairage, ma foi, fort intéressant à partir d'une polémique finalement assez triviale.
Oui, et puis méfiance de YouTube Red, hein, parce que peut-être qu'un jour on pourra plus mettre de bloqueurs de publicité.
Oui, malheur. Et comment ferons-nous avec nos belles vidéos de la JDR non monétisées
Le drame.
Quand tu pensais à les monétiser un jour.
En effet. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans l'amplifié et je vais donc m'occuper de l'édito scientifique cette semaine et vous présenter une petite découverte rapportée cet après-midi par The Telegraph.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
They have finally found the Higgs boson. 2 millions de victimes de la grippe.
A major outbreak of Ebola. A death toll is rising in Nepal after a massive 7.8 magnitude earthquake struck the region.
Alors c'est très mystérieux tout ça, Rémi. De quelle belle découverte s'agit-il ?
Eh bien, un livre de maths pour écoliers de niveau CP-CE1 trouvé dans une école primaire de l'est de la ville de Mossoul, en Irak, qui s'ajoute à quelques manuels similaires déjà découverts ces derniers mois. Et alors, leur particularité est qu'ils ont été rédigés par l'organisation État islamique. Et qu'au lieu d'y additionner des pommes, des lapins, des maisons et des crayons, je vous le donne en mille, les écoliers sont invités à sommer trois fusils mitrailleurs et deux lance-roquettes. Ou bien de repérer l'intrus dans une série d'images de chars d'assaut, ou encore définir des ensembles dans un assemblage disparate d'armes à feu, de fruits, de sabres, de personnages rigolos, d'explosifs et d'animaux. Alors, face à l'effarement qu'éveille chez moi cette charmante nouvelle, je me surprends à imaginer une antenne de l'IFE à Mossoul pour travailler à rendre cette pédagogie barbare aussi peu efficace que notre propre enseignement des mathématiques. Bon, blague à part, cette anecdote montre bien l'importance de l'éducation dans un modèle de société et la façon dont l'État islamique immisce sa logique guerrière dans un champ aussi primordial que l'enseignement des sciences. C'est aussi et surtout une façon d'instrumentaliser les maths en l'occurrence et de se créer une armée d'enfants soldats nourris et dès le biberon aux idéaux djihadistes. Et dans cette équation, évidemment, on connaît bien la réponse, hein, Marie, 3 chars d'assaut plus 200 lance-roquettes fois 5 ceintures d'explosifs, ça fait quand même beaucoup trop d'enfants morts dans leur tête avant même d'être morts dans leur corps ou ce qu'il en restera.
Oui, je suis à peu près aussi effarée que toi. Est-ce que tu n'aurais pas quand même une bonne nouvelle à côté de ça ?
Une excellente nouvelle, bien sûr.
Vas-y, dis-moi
vraiment
tout.
Vraiment excellente. Nos universités occidentales font mieux que l'État islamique.
Dis-moi tout.
Alors, deux chercheurs de l'Université de Montréal, un physicien et puis un informaticien, un collègue, ont développé une nouvelle méthode de calcul de pi à l'aide de fusils à pompe.
Ah, non, mais attends. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête ?
Alors en fait, ce qui leur est passé dans la tête, ils se sont dit, les scientifiques ne calculent pas pi à chaque fois qu'ils l'utilisent. Non, ils ont pi stocké dans leur calculatrice, dans leur ordi, quelque chose comme ça, pour avoir une vraie valeur de pi.
Je te crois sur parole, hein, parce que...
Et alors je cite, c'est très problématique, car le progrès scientifique repose sur des informations, la valeur de pi, qui disparaîtrait probablement en cas d'événement cataclysmique, comme par exemple une invasion de zombies. C'est ce qui est écrit dans le papier qu'ils ont publié. Alors du coup, ça devient extrêmement important d'avoir une méthode robuste du calcul de pi, c'est-à-dire une méthode qui résisterait à ce type de problème.
Oui, alors attends, quelle est-elle cette méthode ?
Eh bien alors, c'est très très simple.
Vois-tu, Jamy ? C'est très simple !
Mais bien sûr, poser une cible circulaire au milieu d'un mur carré. Bien. L'aire de la cible, c'est un cercle, hein, pi fois le rayon du cercle au carré. Vous avez tous vu ça au collège, vous ne vous en souvenez plus, mais vous l'avez encore quelque part dans vos cahiers. Bien. Pi fois rayon au carré. L'aire de la partie du mur qui n'est pas recouverte par la cible, eh ben c'est l'aire du carré moins pi fois rayon au carré. Bon. Si on prend un point au hasard sur le mur, la probabilité de tomber sur la cible est proportionnelle à l'aire de la cible, relativement à celle du carré. Je prends un point au hasard, les chances que j'ai de tomber sur la cible sont proportionnelles à l'aire de la cible, c'est cohérent. Et du coup, si on choisit plein de points au hasard, la proportion de points qui sont effectivement sur la cible nous donne une bonne approximation de la probabilité de tomber dans la cible, c'est-à-dire de son aire, c'est-à-dire de pi fois rayon au carré. Si on connaît le rayon, on obtient pi. Du coup, en choisissant un certain nombre de points au hasard dans notre mur, on finit par récupérer une valeur de pi. Et c'est ce qu'on appelle une méthode de Monte Carlo en informatique.
Oui.
On distingue Monte Carlo et Las Vegas, si vous voulez tout savoir. Une méthode qui a donc été adaptée par nos deux chercheurs canadiens, et ils ont tiré sur un vrai mur, sur une vraie cible, avec un fusil à pompe Mossberg 500. Donc ils ont tiré des plombs sur ce mur, plus de 200 tirs, pour un total de 30 857 plombs envoyés sur le mur, et compté le nombre de plombs qui avaient atterri dans la cible, et non pas à côté sur le mur. Alors ce modèle doit être un petit peu affiné, parce que les points ne sont pas vraiment pris au hasard quand on tire des plombs, étant donné qu'il y a plus de chances d'être dans l'axe du fusil. Bon. Ils ont donc au préalable fait des mesures de déviation des plombs pour obtenir une bonne distribution de probabilité sur leur cible, d'où ce papier scientifique qui n'est pas complètement inintéressant. Et une fois ces quelques contraintes prises en compte et quelques calculs d'intégrale plus tard, on obtient une méthode de calcul de pi.
Mais alors dis-nous, Jamy, est-ce que la science sera sauvée en cas d'attaque zombie, du coup ?
Eh bien, figure-toi que oui. On obtient, grâce à cette méthode, une valeur de pi égale 3,131, ce qui approche quand même pas si mal que ça, le pi égale 3,142, qui est sa vraie valeur approchée. Ça nous donne une erreur de 0,33%, et finalement, bah, c'est pas mal du tout pour une expérience faite avec un fusil à pompe, un mur et une cible. Alors toujours est-il que ça n'est pas pour se préparer à une attaque de zombies que Daesh forme ses enfants soldats, du moins selon mes dernières informations.
On te remercie pour cette édito scientifique, Rémi. Je m'interroge un peu sur les méthodes d'attribution de crédits de recherche au Canada. Ça me laisse assez sceptique, tu vois.
Mais je me dis, finalement, il faudrait peut-être que j'aille faire mon stage à l'Université de Montréal, faire un petit peu de balistique. Là.
Voilà, hein, absolument charmant.
Aussi, parce que...
Et apprendre le tir au fusil à pompe. Bien, eh bien, trêve de baliverne, trêve de science, comme on dit, et passons tout de suite à quelque chose de beaucoup plus sérieux avec la culture, et la culture sera présentée par Raph, comme d'habitude.
Non, pas comme d'habitude. D'habitude, c'est Marie.
Oui, alors, Raph et Marie, en effet, et en l'absence de Marie, les postes sont légèrement translatés. Bien, je me tais, jingle.
Les potères, les rabais, les perleux, les noir et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
Alors, en premier lieu, tu vas nous parler de la mort de Tsvetan Todorov. Pardon.
Et oui, historien des idées, essayiste et sémiologue, est mort à 77 ans le 7 février dernier. Donc, pour tous les anciens cagneux que nous sommes, son nom résonne en nous comme autant de sujets de dissertation possibles. Et il est l'auteur du très bel essai « L'esprit des Lumières » que nous devions absolument lire. Donc il est aussi l'auteur évidemment d'une œuvre de critique littéraire autant que d'essai politique. Catherine Poitevin, donc, qui a écrit un livre d'entretien autour de sa vie, explique ainsi. Il ne reprenait pas l'étiquette de philosophe, préférant celle d'historien des idées. Pour lui, les idées étaient aussi fortes quand elles étaient portées par un artiste que par un philosophe. Ce qui l'intéressait n'était pas tant les idées en soi que les idées incarnées portées par des femmes ou des hommes à qui il avait décidé de rendre hommage depuis une quinzaine d'années. Donc Monsieur Todorov a d'abord été remarqué pour sa traduction des formalistes russes dans les années 1960, qui a largement contribué à la diffusion de la poétique contemporaine. Son essai « Littérature et signification », sorti en 1967, a fait de lui un des pionniers de la Renaissance de la rhétorique. Dans son introduction à la littérature fantastique, comme vous vous en doutez, en 1970, il analysait le genre littéraire de la littérature fantastique. Initialement théoricien de la littérature, il se consacrait depuis les années 80 à l'histoire des idées, aux problèmes de la mémoire et au rapport à l'autre dans des cadres historiques aussi divers que la conquête du Mexique ou les camps de concentration totalitaires. En 2011, il recevait le prix de la critique de l'Académie française.
Rien que ça. Et un petit mot à présent sur la programmation des Nuits Sonores à Lyon.
Et oui, ce mardi 14 février, la programmation des Nuits Sonores, donc des 4 soirées de la 15e édition, vient d'être dévoilée. Elle aura lieu du 24 au 28 mai prochain et c'est devenu un événement incontournable de la vie des Lyonnais, auquel peut-être certains d'entre nous ont déjà participé, non ?
Ceux qui ne sont pas en stage, sans doute.
Non, et moi personnellement, ça fait très longtemps que je suis là, mais jamais.
Donc, petite nouveauté cette année, elles ne seront plus uniquement centrées au sucre dans le quartier Confluence, mais auront lieu dans l'ancienne usine Fagor Brandt à Gerland, qui fabriquait jadis des machines à laver. Donc je n'y connais presque rien, et aucun nom des groupes ne me parle, mais il y aura entre autres des groupes tels que Vitalik ou Poison Point pour la première nuit, donc qui sera aux colorations plutôt hip-hop et électro. La seconde nuit sera conformément à la tradition, la nuit clubbing, qui consiste en une pérégrination entre 15 clubs différents aux ambiances toujours variées et éclectiques. La troisième nuit sera un véritable tour du monde musical à travers différents styles de musique. Donc il faut relever la présence du jazzman américain Pharoa Sanders, entre autres. Il y aura quelques artistes aussi en provenance du Moyen-Orient, et pour terminer les soirées, de la musique techno de musiciens tels que Marcus Gibb. Enfin, la quatrième nuit se conclura par la performance d'artistes extrêmement pointus, tels que Rizan Sayid ou The Chemical Brothers, entre autres. Donc pour chaque nuit à l'ancienne usine, il y a 3 halles, donc autant de concerts. Et donc le pass pour les nuits sonores... De concert de l'oreille aussi, hein, peut-être. Les passes pour les 3 nuits sonores avec la programmation que vous retrouverez sur le site internet est à 94 €, ce qui est un certain investissement que vous pourrez prévoir.
C'est cher pour un cancer.
J'espère que d'ici là, quelques émissions de Sidetrack viendront nous éclairer un peu. On dit Sidetrack ou Sidetrack ?
Avec un S.
Avec un S. Donc Sidetrack viendront nous éclairer un peu plus avant dans la programmation.
Merci beaucoup, Raph. Bon, alors, reprenons un petit peu notre sérieux dans ce studio, ça ne va pas du tout. Tu vas maintenant nous parler de quelque chose d'un petit peu plus posé, d'une exposition de peinture.
Et oui, une exposition de peinture. Donc c'est l'exposition Acte 4, un souffle, entre guillemets, de... C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, de Franz Metzger. Alors c'est à la galerie Anne-Marie et Roland Palade à Lyon, rue Burdeau, dans les pentes de la Croix-Rousse. Alors je me permets d'en parler, même si elle a commencé le 19 janvier et qu'elle se termine le 11 mars prochain, puisque un entretien du peintre très intéressant est paru ce 14 février dans le Petit Bulletin. Il est ainsi introduit par Jean-Emmanuel Denave. J'ouvre les guillemets. Dans un grand souffle atmosphérique, les figures peintes par Franz Metzger naissent et disparaissent dans des paysages. L'artiste revient sur ce devenir tragique et déchirant de ces figures, ainsi que sur sa conception de la peinture. Alors, quand on parcourt quelques œuvres, on peut voir quelques images sur Google Images. On retrouve vraiment quelques ressemblances et en même temps des dissemblances avec l'œuvre de Francis Bacon, par exemple. Alors, l'exposition se présente vraiment sous la forme d'un cycle qui, selon le peintre, se résumerait ainsi. L'idée de ce cycle, c'est naître, croître, mourir et pourrir. Donc, une de ces déclarations dans l'entretien relève presque du mystique, hein, et ce qui pourrait nous encourager à nous interroger sur nos propres représentations artistiques. Il explique ainsi « J'aimerais pouvoir peindre une figure qui contiendrait tout cela, un début, une croissance et une fin, mais qui, dans un sens, continuerait dans le tableau comme la chair pourrissante continue dans la vie. » Donc on y trouve vraiment une représentation aussi assez intéressante apparemment de l'Annonciation, donc ce moment très cool où l'ange annonce à Marie qu'elle est en cloque, qui est un véritable questionnement dans la peinture contemporaine, je précise hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne le sait pas en même temps.
C'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui d'ailleurs.
C'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un véritable questionnement, hein. L'Annonciation, sérieusement, dans la peinture contemporaine, est quelque chose qui interroge beaucoup les peintres. Par exemple, depuis les grands maîtres, hein, comme Léonard ou le Caravage, tout le monde a peint son Annonciation. Hein. Beaucoup s'interrogent sur la capacité à représenter cette scène au XXe ou au XXIe siècle. C'est le cas, par exemple, du tableau très célèbre de Gerald Richter en 1973, Annonciation d'après le Titien, qui était carrément une représentation floutée du tableau de Le Titien, marquant vraiment l'impossibilité de représenter cette scène encore. Et donc il faut dès lors voir quel est le compromis de ce jeune peintre, Franz Metzger, qui semble quant à lui vraiment imprégné des textes bibliques dans ses inspirations.
Et puis une petite info insolite parue hier le 15 février, donc pour les fans de Marcel Proust.
Et oui, c'est assez étonnant, mais des chercheurs auraient mis au jour une vidéo dans les archives d'une famille parisienne où Marcel Proust, donc en 1904, apparaîtrait furtivement à la 37e seconde lors d'un mariage où l'on voit des gens sortir de l'église dans le cortège nuptial. Le chercheur explique « Tout tend à faire penser qu'il s'agit de Proust ». La silhouette et le profil lui correspondent, même s'il est toujours difficile d'identifier avec certitude quelqu'un sur un film de ce type, surtout si on ne le connaît que par des photographies où il pose. Alors, si vous voulez voir ce que les chercheurs identifient comme Proust, la vidéo est très très drôle, elle dure à peu près une minute, et certains trouvent même cette vidéo émouvante. Donc vous pourrez vraiment voir des gens descendre un escalier et un homme habillé fin, habillé en dandy, descendre avec vélocité les marches tête baissée, et c'est cet homme, à la 37e seconde, qui serait Proust, potentiellement. Voilà. Si vous voulez, d'émotion.
Photobombe de Proust, super.
Et pour terminer, tu vas nous parler à présent de Lambert Wilson, je l'avais dit, qui chante Montant au TNP entre le 20 et le 23 février.
Alors oui, alors en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, on a Gérard Depardieu au Bouffe du Nord qui chante Barbara. À Lyon, nous avons Lambert Wilson qui chante Montant. Alors, Lambert Wilson a donc demandé à Christian Scaretti de concevoir et de mettre en scène un spectacle de chansons autour de Yves Montand, qui est une grande icône du XXe siècle. Donc à partir des personnages qui l'auront accompagné, des rencontres qu'il aura faites pendant toute sa vie, le spectacle tentera d'esquisser entre texte, poésie et musique le portrait d'un homme issu du monde ouvrier. Sous la direction musicale de Bruno Fauten, Lambert Wilson se fera l'interprète d'une trentaine de textes. Donc nous ne pouvons évidemment résister à la tentation de vous passer un petit extrait de l'interprétation de cette très belle chanson de Montant à bicyclette par Lambert Wilson pour importer un peu d'amour dans ce studio gagné par la fraîcheur de la nuit et pour mettre fin à notre journal de la culture.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette.
Bien, et donc laissons là Lambert et Paulette donc, pour passer à ton billet culturel. Raph, tu vas donc pouvoir continuer à sévir sur les ondes de Transistor pendant quelques minutes d'hilarité générale dans ce studio. Je ne sais pas si on va réussir à rattraper cette émission. Toujours est-il que c'est donc l'heure sur Transistor de ton billet culturel. Alors aujourd'hui, Raph, tu continues ton exploitation pour ton... Il manquait plus que ça. Tu continues ton exploration pour nos auditeurs des maisons d'édition de théâtre. Et ce soir, ce sont les éditions Quartet, basées à Perreux-sur-Marne, qui sont à l'honneur.
Et oui, ils viennent de republier une pièce très intéressante, donc Mayday, en janvier 2017. Une pièce de Dorothée Zumstein, qui était déjà parue en 2009 chez le même éditeur, sous le titre de Big Blue Eyes.
Oui, et du coup, la réédition de la pièce correspond à l'actualité scénique, puisqu'elle a été créée le 1er février au CDN de Rouen par la compagnie L'Inquarto, dans une mise en scène de Julie Duclos. Nous en parlons donc, puisqu'après son passage à la Colline à Paris entre le 23 février et le 17 mars, le spectacle fait une escale au Célestin dans sa tournée entre le 21 et le 25 mars de cette année. Aujourd'hui, donc, Raph, tu nous parles plus particulièrement de l'univers théâtral de Dorothée Zumstein.
Et oui, et en premier lieu, il est important de souligner que la pièce est inspirée d'un fait divers plutôt sordide. Le personnage se nomme dans la pièce Mary Burns, et dans la réalité, il s'agit de Mary Bell.
Oui, la fameuse affaire Mary Bell, l'histoire d'une jeune fille de 10 ans qui a étranglé deux jeunes garçons en 1968 à Scotswood, près de Newcastle, en Angleterre. Après sa sortie de prison et 17 ans d'une vie terrible où elle doit se cacher et changer d'identité, elle décide à 40 ans de se confier à une journaliste, la même qui avait couvert l'affaire à l'époque où elle était enfant.
Et oui, la criminalité fascine évidemment le théâtre depuis longtemps, qu'on pense aux Bonnes de Genet ou encore à Alberto Zucco de Coltès. Mais dans ce cas présent, c'est l'histoire d'une enfant criminelle qui va prévaloir. Donc presque à la manière du naturalisme chez Zola dans le traitement de l'hérédité, à travers l'histoire de l'enfant, toute l'histoire d'une génération va pouvoir émerger pour le lecteur. Celle de Marie, autrement appelée May dans son enfance, et Kate au moment de la pièce où elle a 40 ans et qu'elle se confie aux journalistes. Les autres personnages sont Betty, sa mère, et Alice McKenzie, sa grand-mère.
Et du coup, quelle est l'histoire de cette jeune May histoire qui puisse peut-être éclairer ces actes criminels.
Alors je ne vais évidemment pas décrire toute la substance du passé de May, mais on repère quand même différents basculements au cours de la vie des trois femmes qui font que de toute manière quelque chose s'est brisé en elles. Les basculements sont toujours montrés d'une manière teintée de mystère et d'énigme. L'écriture, en cela, a vraiment quelque chose de proche de William Faulkner dans Le bruit et la fureur par exemple. Proche dans la manière de superposer les différentes voix et d'éclater toutes les frontières temporelles. Mais la pièce contient une poétique assez radicale. Il y a une manière de raconter cette histoire horrible à travers les souvenirs de May, à travers le personnage de Marie à 10 ans et de Kate à 40 ans. Et même de tout ce dont elle ne peut se souvenir, dont le récit est donc pris en charge par sa mère et sa grand-mère.
Et on trouve dans une didascalie cette très belle métaphore de May qui cherche des trésors parmi les débris.
Et oui, cette histoire se raconte véritablement sous différents plans, au sens cinématographique, et de chaque passage, à travers chaque comparution des femmes, naît de véritables images poétiques, des images qui avancent dans notre imaginaire, tandis que reculent la peur, les préjugés, tout ce qui peut en nous rédimer le criminel.
D'un point de vue purement littéraire, du coup, qu'est-ce qui fait l'intérêt de cette pièce, Raph ?
Alors la pièce est une sorte de composition qui fait surgir, ressurgir et redonne une épaisseur à des événements fondateurs du trouble et germe du crime. Pourtant, ce sont des voix douces, imprégnées d'une sorte de malédiction irrémédiable et indicible. Rien n'est affirmé. Ce n'est pas simplement l'histoire de déconvenus et d'actes proscrits et intériorisés sans jamais se révéler, c'est peut-être surtout l'histoire de nos silences les plus profonds, de la détresse qui parfois nous prend, et qui, quand on a connu ou vu ou vécu des faits prohibés, ne nous donne pas la possibilité effective d'en parler et se traduit dans nos gestes les plus fous, comme les plus réprimables. Je parle ici évidemment de viol ou quand on est victime d'actes pédophiles. Bien plus, d'après l'histoire même de Maribel, le vrai fait divers, ce n'est pas pour se justifier qu'elle va raconter son histoire dans un livre, parce qu'elle l'affirme, ce qu'elle a fait étant enfant est absolument impardonnable.
Alors là,
je vous laisse lire un extrait.
C'est pas pour moi que je fais ça, c'est pas pour me faire pardonner, pour moi il est trop tard, je suis impardonnable.
Et donc, une fois qu'on a évincé ce préjugé néo-chrétien du pardon, la forme littéraire se noue vraiment autour d'un souffle presque rythmé en vers, comme un poème dont l'essence ne saurait s'épuiser avant que les corps ne disparaissent dans les lignes infinies de la mémoire, des corps qui sont présents à eux-mêmes comme des spectres à qui on donne pour quelques mots, quelques phrases, la possibilité de parler, de communiquer avec les vivants et qui s'effacent aussitôt qu'ils ont accompli leur parole, une parole pour dire et non pour juger. Pour terminer, on peut vraiment dire que Dorothée Zumstein, dans une veine réaliste, empreinte d'une lucidité mystique, regarde en face les terreurs de la vie. Ainsi, ce n'est pas la criminelle qu'elle raconte, mais la femme et l'enfant avilis, retranchés dans leurs limites et leurs impuissances. Dans cette pièce, il n'y a plus de larmes dans les yeux, il n'y a plus que des flammes.
Et comme le dirait Marie en conclusion, car elle lit toujours soigneusement les relances, c'est à lire absolument donc. Et nous terminons cet amplifié avec une intervention d'un dernier chroniqueur.
Et quel chroniqueur ?
Et quel chroniqueur ? Eh bien, vous le saurez après un petit extrait sonore.
France Inter Paris que nous lançons au moment du salon de l'auto, c'est un petit peu la radio qui les accompagnera 17 heures par jour et qui leur apportera un programme de 10 comme on n'en a jamais entendu pour l'instant. Un programme de détente et non d'excitation. Mais à part ce programme de disque de détente, il y aura aussi une foule de conseils pratiques qui, administrés à petite dose et en temps utile aux Parisiens, leur permettront de mieux vivre dans une grande ville, dans un grand ensemble où il n'est pas commode de se débrouiller comme on le fait à la campagne, dans une atmosphère beaucoup plus exempte de tout souci.
Alors on entendait Roland Dordain, l'un des grands noms de l'RTF en 1970, au moment de la création de France Inter Paris qui deviendrait FIP 2 ans plus tard. Et depuis, FIP est devenue une radio nationale, hein, autre chose qu'une radio pour Parisiens névrosés qui sont coincés dans les bouchons. Une radio présente dans une petite dizaine de villes de province, et c'est précisément de cette présence en province, qu'il est question aujourd'hui, Mathias.
Oui, parce que FIP décide enfin d'ouvrir une fréquence à Lyon, c'est ça ?
Alors oui, et à Lille également, mais pas seulement, hélas. Je m'explique. Alors actuellement, la musique est programmée à Paris et les commentaires des Fipettes, les célèbres animatrices de la station, sont également enregistrés en direct à Paris, puis retransmis avec la musique dans toutes les antennes de province. Alors ça fonctionne comme ça, sauf dans 3 villes. Bordeaux, Strasbourg, Nantes, où 12 heures par jour est mis en place ce qu'on appelle un décrochage. C'est-à-dire que la musique est la même, mais sur les moments où des commentaires sont prononcés par les fipettes, eh bien, il y a un studio dans chacune de ces villes où d'autres fipettes font des commentaires sur l'actu culturel local, finalement, ce que leurs collègues font à Paris. Donc l'actu culturel local, les scènes et les concerts de ces villes, leur tissu associatif, et FIP joue vraiment un rôle majeur dans la vie culturelle de ces trois villes. Les fipettes de chacune des stations, donc des locales, diffusent plus de 30 infos par jour sur l'actualité culturelle. Alors c'était le cas dans d'autres villes auparavant, mais ce fonctionnement avait déjà été arrêté au cours des 15 dernières années.
Et du coup, Radio France veut supprimer ces fameux décrochages.
Eh bien, tu devines juste, c'est tout à fait ça. Alors, Mathieu Gallet s'est crié en 2015, FIP est une pépite à laquelle on ne peut pas toucher. Eh bien, écoutez, il faut croire que si. D'ailleurs, ce projet de supprimer ces décrochages ne figurait pas dans le plan d'objectifs 2015-2019 de FIP, ce qui plonge les fipettes de ces locales dans une grande perplexité, de même que les auditeurs. L'idée est un changement de modèle, nous dit Frédéric Schlesinger, directeur des antennes de la programmation à Radio France. Il s'agit essentiellement de développer les web radios, puisque les web radios de FIP sont quand même la quatrième en France, et de développer la radio numérique terrestre, la fameuse radio de l'avenir. Quitte donc à abandonner ses ancrages locaux très forts dans ces quelques villes. De 16 fipettes réparties sur 3 villes, on passerait à 6 personnes sur 6 villes. L'idée serait de ne pas renouveler les départs à la retraite selon ce qui est appelé, je cite, un rythme naturel. Alors, je traduis, c'est une façon de ne pas lancer un conflit social trop sonore parce qu'on se souvient encore de 2008 et de 2000, où le plan bleu de 2000, où un certain nombre de réformes avaient dû être abandonnées sous la pression des auditeurs. Donc les fipettes restantes, ces 6 dans 6 villes, géreraient un petit agenda d'actu local qu'elles ne seraient plus chargées d'enregistrer, ce serait enregistré en différé à Paris. Les actus culturelles, et locales, donc, nous dit Radio France, seraient transférées à France Bleu. On se doute que c'est évidemment le même auditorat, n'est-ce pas ? On pense également aux remplaçantes de ces fipettes qui étaient des intermittentes du spectacle et qui du coup perdront une bonne partie de leur cachet en partant de FIP.
J'ai comme le sentiment que ça n'a pas l'air de soulever en toi un enthousiasme débordant.
Non, et figure-toi que je ne suis pas le seul. Je me demande un petit peu pourquoi supprimer cet ancien fonctionnement au lieu de le faire cohabiter avec les innovations. Internet est l'avenir et l'espoir de la radio, et on en est tous conscients à Transistor, mais la radio, c'est aussi tout simplement la radio. Alors, je trouve cette décision un petit peu absurde, alors que les stations de ces trois locales sont une vraie réussite. Les audiences étaient en nette progression l'an dernier, plus 1,4% à Strasbourg, plus 1,7% à Bordeaux. Bordeaux, au FIP, est la 8e radio et la 2e radio du service public après France Inter et devant France Q, Le Mouv', France Info, France Bleu, etc. Alors les auditeurs se mobilisent, une page Facebook FIP Toujours a été lancée, une pétition a recueilli quand même plus de 27 000 signatures, ce qui est tout de même pas mal. À Nantes, les 24 maires de l'agglomération ont envoyé une lettre à la direction de Radio France pour demander que le plan soit abandonné. Mais comme le dit une fipette et syndicaliste, le seul moyen pour leur faire changer d'avis, ce sont les auditeurs, les partenaires culturels et les politiques. Alors du coup, à bon entendeur, chers auditeurs, parce que Transistor n'a pas du tout envie de reprendre les parts d'audience de FIP. C'était la 19e édition du journal radiophonique Amplifié, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Mathias Soubise, Marie Lécuyer, Robin Lenoir et Raph. Un grand merci à Nicolas Auvray qui officiait en régie ainsi qu'aux équipes de Nes Media pour leur soutien logistique dans la diffusion de ce direct. L'Amplifié est de retour dans 2 semaines à la même heure. D'ici là, n'hésitez pas à réagir à nos émissions sur notre site www.transistor.fr et sur la page Facebook de l'émission.